J'espère que vous allez bien. On est arrivé là, ça a l'air. L'Ecclésiaste dit quelque chose de vraiment étrange. Je ne sais pas comment le prendre, mais ça dit, l'Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Fait que c'est le seul texte biblique que j'avais ce matin. Non, c'est pas vrai. La semaine dernière, on a débuté une série. En fait, c'était supposé être une série de 3 semaines. Fait que je vous avertis, cette semaine, je fais 2 messages en un. Ça va être long. J'espère que vous n'avez rien de prévu pour dîner. Ben non, je ne garderai pas. On a débuté une série qui s'appelle « La parfaite imperfection ». Et la semaine dernière, on a vu « Le parfait amour imparfait ». Là, je ne vous referai pas le message. Il est en ligne. Vous allez l'écouter. Fin. Ce matin, c'est « La parfaite destinée imparfaite ». La parfaite destinée imparfaite. Souvent, une des choses, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'avais comme l'impression, on me donnait l'impression que, un, il fallait que ma vie soit parfaite. Un, si je marche avec Dieu, et puis je suis tout à la lettre, ça va être que des bénédictions. Et que les gens qui sont prospères, les gens qui sont en santé, les gens qui sont beaux, les gens qui sont bien habillés, les gens qui ont de belles voitures, les gens qui ont de belles maisons, c'est parce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Et ça va bien dans la vie de ces gens-là. Et que tout devrait bien aller si tu suis Dieu, puis voici toutes les promesses, les bénédictions et tout ça. Et on pense que, et j'ai longtemps pensé qu'il fallait que la vie de Dieu, la destinée de Dieu était parfaite. Mais quand on lit la Bible attentivement, on se rend compte que c'est tout le contraire. Et que la perfection de Dieu, c'est souvent une imperfection pour nous, mais solidement. Et ce matin, je vais débuter avec un texte qu'on saute souvent. On ne pense pas qu'il y a une richesse dans ce texte-là. Et en fait, ce texte-là nous révèle tellement sur la personne de Dieu. C'est fou. Dans Matthieu 1, tout de suite en partant, vous dites, OK, la généalogie. T'es-tu sérieux? Tu nous finis ça avec une généalogie? Hey, ça va être à rire des stradrailles un matin. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péreth et Zérakh de Tamar. Péreth eut Hetsrom. Hetsrom eut Aram. Aram eut pour fils Abinadab. Abinadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Ozias, Ozias eut pour fils Jotham, Jotham eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shétiel. Shétiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Ça, maintenant, c'est. D'après moi, Matthieu, là, c'est un slammer. Pour faire ça, là, sérieux, hein? Je me suis pratiqué cette semaine pour que ça l'enligne. Mais on va retourner au début, parce que là, vous dites, OK, jusqu'à maintenant, je ne suis pas vraiment béni par cette matinée, à part la louange. Et on ne voit pas ton point. Il est temps que ça finisse, finalement. On va retourner Matthieu 1. On ne fera pas toute la généalogie, mais je veux juste qu'on s'attarde sur quelques noms, juste pour qu'on comprenne la parfaite destinée imparfaite de Dieu. Parce qu'ici, c'est la généalogie de Jésus. Pour prouver que Jésus est le Christ, mais d'où vient Jésus? Et souvent, on ne se pose pas la question. La seule affaire, c'est qu'à Noël, c'est « Ah, Jésus de la Vierge Marie », point. On s'arrête là. C'est notre connaissance de la généalogie de Jésus et du parcours. Jésus qui venait, devait venir par amour pour nous donner sa vie pour nous, pour effacer nos fautes, tout ça, mourir sur la croix pour nous. La parfaite, encore une fois, imperfection de Dieu, mais... Et on s'attend que la destinée, le chemin par lequel Dieu a passé pour que Jésus arrive, c'est parfait. Si on retourne dans Matthieu 1, les versets 1 à 16, au début, on va s'arrêter sur Salmon eut Boaz de Rahab. C'est qui Rahab? On retourne dans le livre de Josué. Rahab, c'est la prostituée qui a accueilli les espions. Et à cause des espions, ils sont rentrés dans la terre promise. Et cette prostituée-là a marié Boaz. Boaz eut Obed de Ruth. Excusez, Salomon eut Boaz de Rahab. C'est Salomon qui a marié Rahab. J'arrive à Boaz. Excusez, je ne suis pas très fort dans la généalogie. Boaz eut Obed de Ruth. Ruth, c'est qui? Le livre de Ruth. Vous pourrez le lire. Mais c'est une Moabite. Puis, sa belle-mère, c'était Naomi. Mais Naomi, c'était une juive. Elle a décidé de retourner dans son pays après la famine, tout ça. Et elle a dit à ses belles-filles, « Restez dans votre pays, c'est votre pays. Je ne peux pas vous faire déménager, arriver dans un autre pays. Ce n'est pas le vôtre. Ça n'a rien à voir. Moi, de toute façon, je suis trop vieille. Je peux pas, je me remarierai pas, ainsi de suite. Moi, je repars chez nous. » Et Ruth a dit, « Moi, où tu vas, je vais aller. » Une Moabite, pas une juive. Après ça, Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Mais après ça, ça se gâte à David encore. Parce que Salomon, le roi Salomon, vient d'en parler Ecclésiaste. De qui? De la femme d'Uri. Vous vous souvenez de l'histoire? David a convoité une femme, il a couché avec elle. Il y a eu Salomon qui est venu de cette relation-là. Et parce qu'il se sentait coupable, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer le mari de la femme d'Uri. Et on poursuit. Après la déportation à Babylone, ça continue. Parce que les Juifs ont, encore une fois, été désobéissants, ils n'ont pas suivi les lois et ils ont été déportés. C'est toute l'histoire des prophètes et tout ce qui se passe, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Ils ont failli être exterminés, mais ça continue. Et là, on se rend compte qu'à travers ça, il n'y a pas de perfection, pas notre perfection. Pas ce qu'on pourrait penser que c'est parfait, mais pourtant, c'est la lignée de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à travers tout ça, lorsqu'on se rend compte que c'est loin d'être parfait, puis quand on lit les histoires séparées, on fait comme, « Oh mon doux, ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. Un autre, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est la lignée, c'est de là que vient Jésus. Ça veut dire que Dieu rachète, que Dieu se sert des échecs, se sert des choses qui selon nous, ne devraient pas fonctionner, qui ne sont pas comme chrétiennes ou whatever, et Dieu peut prendre n'importe quelle situation, n'importe quelle personne pour faire son chemin. Et j'espère que ce matin, pour ta destinée, tu es encouragé. Juste avec ça. Je pourrais partir, puis j'ai fait ma job un matin. Mais c'est mon matin, fait que je me garde, je continue. Emily P. Freeman a dit, « Mais quelquefois, tu as besoin d'avancer, même si tu ne te sens pas prêt. Puisses-tu avoir le courage alors que tu apprends à marcher dans la noirceur? » Wow! Puisses-tu avoir le courage alors que tu apprends à marcher dans la noirceur? Et souvent, on attend de tout être prêt, tout est beau, tout est. Des fois, tu sais, même pour les jeunes couples qui vont se marier, mais là, on va déjà avoir notre maison, on va monter la. On dirait que tout, des fois, faut le premier bébé, il faut tout qu'on ait la plus belle chambre, le plus. On dirait que dans notre vie, il faut tout le temps. OK, si j'ai toutes ces conditions-là, si tout est en place, je vais y aller, je vais me lancer, parce que c'est sécuritaire, c'est ça. Je vais le faire, puis je sais que ça va fonctionner. Mais lorsqu'on lit l'histoire de Dieu, on se rend compte que. C'est tout le contraire avec Dieu. Dieu dit, lance-toi, je vais m'organiser pour que tu sois prêt plus tard. Et c'est vrai, regardez n'importe quel homme et femme de Dieu à travers la Bible, et c'est la même histoire à chaque fois. Il n'y a personne de prêt. Noé n'était pas prêt dans une sécheresse à bâtir une arche et faire rire de lui. Abraham n'était pas prêt à partir ne sachant pas où il allait. David n'était pas prêt à fuir devant Saül. Il n'y avait personne de prêt. Personne n'était prêt. Et à chaque fois, c'est la même histoire, un Gédéon. Je suis le plus petit de ma petite. On est la plus petite famille. Je suis insignifiant. Jérémie dit, je suis trop jeune. Moïse a dit, je ne suis pas capable de parler. Chacun avait ses défaites. Chacun n'était pas prêt pour ce que Dieu avait pour lui. Et Dieu n'a jamais dit, « Bien, tu sais, tu as raison. Va te préparer comme du monde. Quand je vais sentir que tu es prêt, fais tes devoirs, let's go. » C'est étrange parce que Dieu fait comme, il te prend où tu es présentement. Puis il dit, je le sais que tu n'es pas parfait. Je le sais que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Je sais que la situation n'est pas idéale ou comme exactement comme tu... Mais moi, je ne te dis pas d'attendre que. Je te dis, vas-y maintenant, parce que c'est moi qui vais y aller. C'est là un peu. Tu sais, il y a un mot qui s'appelle la foi. Pas mal là que ça rentre en ligne de compte. Un des textes dans les trois dernières années qui a été une révélation pour moi, qui m'a amené une dimension vraiment de voir Dieu, de voir son plan comme quelque chose que j'avais... Pourtant, j'ai lu ce passage-là, je ne sais pas combien de fois, j'ai prêché ce passage-là, mais Dieu m'a parlé à travers ce passage-là vraiment fort. Alors que je me posais des questions, alors que je priais, je méditais, puis c'est les mêmes choses qui revenaient toujours, puis ça ne faisait pas de sens dans ma tête, puis je me disais, c'est impossible que c'est ce que Dieu veut, c'est impossible que c'est le chemin, c'est impossible que je dois faire, prendre cette décision-là, c'est impossible que... Et là, ce passage-là est venu sur mon cœur, je suis allé relire le passage, et j'en ai eu une lecture complètement différente. Dans Actes 10, les versets 9 à 15, ça dit, « Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Pierre avait une conception de ce que Dieu voulait. À ce moment-là, ce que Dieu voulait, c'est que Pierre parte, suive les hommes qui allaient venir le chercher, aille chez Corneille. Oh, c'est pas un juif, c'est un romain. Et aille lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et dans sa tête, ça ne fonctionne pas, parce que nous, encore une fois, ça ne se mêle pas. Les trucs très culturels, très à l'époque et tout ça. Et il y avait sa conception même, je dirais, théologique de Dieu. Et là, Dieu vient tout défaire ça, vient smasher ça, puis vient dire, « Toi, ce n'est pas à toi de décider ce qui est pur ou impur, c'est à moi de décider. » Parce que le plan de Dieu, la destinée de Dieu... Je me suis rendu compte que c'est pas si... Des fois, nous, on a notre plan. Puis on vit dans une société présentement qu'il faut que A, B, C, D, ça fonctionne comme ça. Hein? Il faut que tu aies une vision, une mission de vie, un blablabla. Bla, 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 bla. Non, je suis plus capable. Puis ton plan, dans 10 ans, comment tu te vois? Moi, j'ai la misère à me voir le lundi matin. Fait que 10 ans, c'est loin un peu. Mais Dieu dit, c'est justement. Des fois, on veut tout avoir notre plan prédéfini, puis on pense, et des fois, on pense tellement qu'on a Dieu, savoir, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut pour ta vie à toi. C'est ça que Dieu veut pour ta vie, c'est ça que Dieu veut pour ma vie. Mais je me suis rendu compte, Dieu a fait comme, tu t'assois, c'est pas toi qui décides. Ce que tu penses être, bien, peut-être que c'est pas ça. Ouf! Pierre a pogné un 2 minutes, là. À la place de Pierre, à ce moment-là, je pense que j'aurais réagi comme Pierre. Seigneur, non, je peux pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas de sens. Je me suis rendu compte que des fois, des choses qui ne font pas de sens, pour Dieu, ça fait un sens. Et pour longtemps, ça ne ferait pas de sens pour nous, jusqu'au jour où, à un moment donné, on comprend, on fait comme, « OK, c'était pour ça. Là, ça fait du sens. Là, ça fait du sens. » Évidemment, Bob Goff, c'était la dernière, je vous l'avais promis la semaine passée, promesse dite, promesse due. Si nous faisons seulement les choses avec lesquelles nous sommes familiers, nous allons peut-être manquer ce pourquoi nous avons été faits. Si on fait seulement les choses avec lesquelles nous sommes familiers. Et c'est un peu ça. Pierre était très dans sa façon de penser, dans son corps, dans sa « voici comment Dieu pense, voici qu'est-ce que moi je dois faire en tant que... » Et des fois, on s'arrête beaucoup à ça, et on ne laisse pas Dieu nous surprendre. On ne laisse pas Dieu nous surprendre. Et des fois, justement, c'est ce moment-là de risquer d'aller vers, puis de faire comme, OK, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Un de mes passages préférés dans la Bible, c'est Jean 21. Je ne lirai pas le passage au complet. Mais c'est le moment où les disciples, après avoir vu Jésus ressuscité, Jésus est parti, puis tout d'un coup, ben, il ne revient plus, là. Et à ce moment-là, bien qu'ils ont passé 3 ans avec lui, qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, les miracles, la bonne nouvelle, les gens, et ainsi de suite, au lieu de eux commencer à faire quelque chose avec ça, ils retournent à quoi? Les choses qu'ils savent faire, dans ce dans quoi ils sont confortables, avec les personnes avec lesquelles ils sont confortables. Ils sont restés leur petit ghetto, leur petite gang, ils sont retournés à la pêche. J'ai rien contre la pêche. Mais c'est là où tout a commencé avec Jésus. Ils retournent à faire ce qu'ils savent faire. Mais ce n'était pas ça le plan. Et là, Jésus décide de revenir. Et il refait une pêche miraculeuse. Et là, c'est à ce moment-là que les disciples reconnaissent que c'est Jésus. Et comptez du verset 9, ça dit, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre, montant dans la barque et tira le filet de plein de 153 poissons à terre, malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » C'est tellement beau. Parce qu'au moment où, probablement chacun de nous, on aurait fait des reproches à ces gens-là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez justement pas fait votre plan de 10 ans. Vous ne savez pas où vous en allez. Vous retournez à vos affaires. Moi, j'ai donné ma vie, là, je suis mort sur la croix. J'ai porté vos péchés, je suis allé dans les ténèbres, je suis revenu. Let's go, j'ai tout fait. Puis vous autres, vous retournez à la pêche. Sérieux? Mais la beauté de ça, c'est que ça démontre encore une fois la personne et le caractère de Dieu. Il a décidé de juste faire un throwback. On revient les chums quand on s'est rencontrés. Est-ce que vous vous souvenez? C'était à la pêche. On va refaire une pêche miraculeuse. On va s'asseoir et on va manger ensemble. Et alors qu'on mange ensemble, Jésus va juste poser la question à Pierre qui vient de le renier une couple de jours, puis il est encore dans la honte à côté, là. Moi aussi, je le serais, là. Et il va juste lui dire, « Est-ce que tu m'aimes? » Et il va lui donner la responsabilité de paître ses brebis. Il va non seulement le pardonner, mais lui redonner une nouvelle chance. Parce que c'est dans le caractère, la personne, l'ADN de qui est Dieu. C'est fou. Et c'est ça la destinée imparfaite de Dieu. C'est que nous, il faudrait qu'on pense que hey, si jamais, il ne faut pas que je déraille la chemin, c'est ça, puis on se tient bien à côté, puis c'est comme ça, puis c'est voici les personnes qui doivent être dans ma vie, voici les personnes que je dois pas être dans ma vie, voici où je devrais être, voici où je devrais pas être. Et des fois, on bifurque, des fois, on s'éloigne, des fois, on trébuche. La beauté, c'est que Dieu nous ramène. La beauté, c'est que Dieu nous pardonne. La beauté, c'est que Dieu nous redonne une chance. Et c'est ce qu'on voit à travers la généalogie de Jésus. Il n'y a rien de parfait. Il y a des affaires même abominables pour vrai, là. Des meurtres. Inutilement. Voyons. Pour vrai. Mais Dieu ne se soucie pas de ça. Dieu reprend toujours. C'est sa job. Owen McManus a dit, « L'amour ne vient pas sans blessure et la foi ne vient pas sans échec. » J'aime ça. Et dans notre vie, c'est des trucs qu'on a peur. On est souvent dirigé par la peur, parce qu'on a peur d'aimer. Si on a été blessé, on a peur d'aimer parce qu'on a peur d'être reblessé encore. L'amour ne vient pas sans blessure. Jésus a été blessé par ses disciples. Jésus a été blessé par les gens qui aimaient. Jésus se retrouvait à la croix inutilement, purement injuste. Il s'est retrouvé à la croix de façon injuste par amour pour nous. Il a été blessé pour nous. L'amour ne vient pas sans blessure. Mais lorsqu'on risque d'aimer, ça peut aussi changer nos vies, la vie des gens autour de nous. Et c'est la même chose pour la foi. La foi ne vient pas sans échec. De dire que si tu as la foi, il n'y aura pas de problème, que tout va toujours bien aller, qu'il n'y aura pas d'échec, que tu ne feras pas de gaffe, c'est faux. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on regarde la généalogie de Jésus, lorsqu'on regarde la Bible d'un couvert à l'autre, c'est un gâchis monumental, pour vrai. C'est un gâchis. C'est pas un roman d'amour, là. C'est pas un petit truc à l'eau de rose. C'est pas un film de Disney. avec plein de princesses, des papillons puis des licornes. J'ai dit le mot licorne. Non, c'est pas ça. La Bible, c'est tough. C'est un livre tough. Tu sais, puis moi, ça me fait rire des fois, là, comme ils sortent des séries télévisées. Voyons. C'est pas ça du tout. Ça serait même pas présentable. C'est du 18 plus. Il y a des carnages, des affaires épouvantables. Tu dis, voyons donc. Mais Jésus a pris tout ça. Dieu a pris tout ça pour le racheter. Il a racheté l'humanité. La foi ne vient pas sans échec. Et c'est ça le risque de dire, bien si, et des fois on s'empêche de dire, est-ce que je vais avancer, est-ce que je vais faire ce pas-là, parce que tout d'un coup que ça ne marche pas, tout d'un coup que ça ne fonctionne pas. Et c'est vous ce que je me suis dit, une couple de mois. J'ai changé, mais tout d'un coup que ça ne fonctionne pas pour les tout d'un coup que ça fonctionne. Et si jamais ça fonctionnait? Et si jamais c'était le plan de Dieu? Et si jamais c'était le bon endroit? Et si jamais c'était les bonnes personnes? Le psaume 84, les versets 6 à 7, dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Le livre des psaumes n'exempte pas la souffrance, les pleurs de la foi. Et quand on traverse cette vallée-là des pleurs, si on met notre appui en Dieu, il la transforme. Éventuellement, il va la transformer en un lieu plein de sources. Et il va la couvrir aussi de bénédictions. Parce que dans le plan, justement, imparfait, imparfait de Dieu, Dieu sait très bien où on passe. Et je vous dirais que si je fais... Dernièrement, je faisais un recul de mes 3 dernières années. Et honnêtement, jamais dans ma vie, je veux retourner là. Pour vrai. Je l'ai dit à ma fille. Je dis, là, ça, c'est non, là. Cancelle le projet. Dieu est bien au courant. Puis, à un moment donné, ça va faire, là. Mais c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Et de voir qu'est-ce que Dieu fait à travers ça, comment Dieu change, comment Dieu transforme, comment Dieu fait grâce, c'est fou, là. Warren Wiersbe a dit justement à propos de la vallée de Baca, parce que la vallée des pleurs, en hébreu, c'est la vallée de Baca. Et c'est le nom pour tous les endroits de difficulté et de souffrance dans nos vies. Là où tout semble sans espoir et où vous vous sentez désespéré comme le sommet du désespoir. La vallée du désespoir. Ça fait partie des fois. On n'espère pas. Je ne vous le souhaite pas. Mais ça peut faire partie du plan imparfait de Dieu. Jonathan Martin me dit, ce n'est pas dans le caractère de Dieu d'envoyer le désastre, mais c'est vraiment dans la description de tâche de Dieu d'être l'ingénieur de la beauté qui sort du désastre. Wow! C'est l'ingénieur de la beauté qui sort du désastre. C'est la parfaite destinée imparfaite de Dieu. Que lorsque notre chemin nous semble chaotique, nous semble épouvantable, nous semble sans issue, Dieu est encore en contrôle. Dieu est encore le chef, le boss. Dieu ne se laisse pas surprendre. Dieu est au courant. Dieu te voit. Dieu connaît. Dieu t'entend. Dieu a compassion. Et Dieu veut te relever. Et il va le faire. Si tu restes accroché, puis même au bout du doigt. Je l'ai dit, je le répète, j'ai dit, dans les dernières années, bien souvent, là, si j'avais été en Facebook ami avec Dieu, tous les petits caractères, là, surexcité, plein de joie. C'est des fois, là, wow! C'est le monde qui part en vacances, ils font un beau petit post à l'aéroport, là, surexcité, enthousiaste. Moi, ça aurait été en relation compliquée avec Dieu. For real. Puis il sait, là, c'est pas... J'y apprends rien un matin, là. En relation compliquée. Parce qu'il y a des moments dans notre foi, des moments dans cette destinée-là imparfaite qu'on voudrait qu'elle soit tellement parfaite, puis on s'est fait dire, et il y a des gens qui disent, ben là, finalement, hey, si tu pries plus, si tu fais ça, tu vas t'accrocher à Dieu, ben là, ça va aller bien, ça va... Ben, c'est parce que ça va plus mal que ça allait. Fait qu'à un moment donné, là, pousse ton gaz égal. Mais Mais si tu restes accroché malgré avec une ficelle, c'est suffisant pour Dieu. Pas besoin de jeûner 40 jours, pas besoin d'aller à faire un pèlerinage, de faire n'importe quoi, parce que Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît. Et c'est lui qui est l'ingénieur de la beauté qui sort du désastre, parce que c'est sa spécialité. Dans Ésaïe 55, les versets 6 à 9, ça dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées, ça c'est la partie importante, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensée. Et ça, on l'oublie tellement souvent. Parce qu'encore une fois, pour nous, notre destinée, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, les gens, peu importe. Moi, j'ai décidé dans les derniers mois de juste laisser aller. Et de voir, de me retrouver avec des gens que j'aurais jamais pensé être. Des endroits que j'aurais jamais pensé être. Et de réaliser et de me poser la question, et de me dire, ben, je ne comprends pas pourquoi. Telle personne, tel genre, telle situation, et je me rends compte que les choses qui font, c'est toutes des choses qui pour moi, je ne comprends pas, ça ne fait pas vraiment de sens. Et je me suis posé la question, et si jamais c'était Dieu? Et avec du recul dans les derniers mois, je me dis, je pense que ça l'était. Et je pense que ça l'est. Je ne comprends pas encore tout le sens de tout ça. Mais je pense que Dieu est là quelque part. À la fin du chapitre de Jean 21, le verset 25, ça dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est limité dans notre connaissance de ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. On ne le sait pas tout. Et des fois, on s'arrête juste à ça. Mais la beauté de tout ça, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'il continue d'écrire son histoire à travers vous et à travers moi. C'est ça la beauté. Jésus continue d'écrire son histoire à travers vous et à travers moi. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans la parfaite imperfection de Dieu, savez-vous quoi? Dieu est le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de « c'est quoi les chances ?» Le Dieu de la page blanche. Il est le Dieu de la seconde chance, le Dieu de c'est quoi les chances, le Dieu de la page blanche. C'est ça que j'ai découvert. La semaine dernière, j'avais le privilège d'aller faire un hommage à Pasteur Paul au Carrefour avant de venir ici, j'en ai mentionné. Je me prépare, mais je veux dire, je n'ai pas de notes. Je suis habitué, j'aime ça, je suis plus à l'aise, pas de notes. Et la semaine passée, c'était quand même un hommage, ça, je ne voulais pas avoir l'air de goofy. Fait que j'avais des notes. Très rare, j'avais des notes. Et quand j'ai fait imprimer mes notes, ça fait longtemps que je n'avais pas touché à l'imprimante, à la fin, l'imprimante a décidé de sortir une feuille blanche. J'ai failli la prendre et la remettre dans l'imprimante, ce qu'on est supposé faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la feuille blanche était pour moi, je fais comme, pas en tout. Il faut que tu la gardes, ça fait partie. Et je vais exactement vous répéter ce que j'ai dit à Pasteur Paul la semaine dernière. Justement, Dieu, c'est le spécialiste de la page blanche. Du recommencement. C'est lui qui est capable de réécrire ton histoire. Et là où tu penses que c'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'issue, tu ne sais pas, tu ne vois pas, puis tu penses. Rappelle-toi qu'il y a une page blanche. Et que Dieu, c'est le spécialiste d'écrire sur la page blanche. Ça, c'est la beauté de qui est Dieu. Fais juste cette photo. Merci encore pour l'hommage de quelques semaines. Plein de choses qui m'ont touché. Mais il y a une vidéo qui m'a ramené. J'ai fait comme wow. Stéphane Hillard, un ami, depuis longtemps. C'est lui qui est en charge de Momentum, qui est une conférence d'ados. Et dans une saison, je suis redevenu comme pasteur de jeunesse, slash aussi pasteur principal. J'ai décidé d'aller à Momentum, mais cette année-là, Stéphane m'a appelé et m'a invité à faire un atelier aux ados. J'ai accepté. Puis à ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait. C'est fou parce que ça, c'est février 2020, 3 semaines avant que le COVID arrive. En 2019, je m'étais dit, hey, 2020, quelle belle année pour faire une rétrospection de ta vie, de qu'est-ce qui se passe, t'as tellement de questions, tu t'arrêtes jamais pour voir c'est quoi la suite, le plan de Dieu. Et jamais j'aurais pensé me retrouver aujourd'hui là, quand je me suis posé cette question-là. Et on est rentré dans 2020. Et j'ai accepté de faire cette conférence-là. Et c'est fou parce que ça, je pense que ça m'a apporté plus que ce que j'ai apporté aux ados. Et Stéphane a mentionné cet élément-là dans le vidéo. Du fait que je faisais partie de la gang des pasteurs de jeunesse, comme si on ne dirait pas que j'étais pasteur principal. Et je me souviens très bien, à l'époque, pasteur Maxime était sur l'équipe ici. Et je me souviens encore, c'est le flash, je me souviens encore, de revenir ici et de dire à Max, je dis, c'est fou, hein? Mais je me sentais bien là-bas. Je me sentais à ma place. Bien plus que dans bien d'autres rencontres de pasteur principal, que je suis gazé, là. Et c'est resté là. Et c'est fou parce que cette conférence-là, le thème, mais justement, c'est ça. Tout est possible. 3 semaines avant que la COVID pète. Et hier soir, en train, je revisais tout mon message hier soir, puis je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai eu un flash. J'ai retourné, j'ai scrollé mon Instagram. Pas comme Valérie l'a fait. Je suis pas allé voir mes bas. Mais je voulais retrouver. Je me suis souvenu qu'il y avait cette photo-là. Je l'avais postée sur mon Instagram. Je voulais aller voir justement la date pour être bien certain. Et je l'ai posté quand, des premières semaines que le COVID a pété, parce que je voulais comme, hey, positif, on va encourager tout le monde. Voyons. Et je me suis fait comme un mémorial. Comme un genre de totem ou je ne sais pas trop quoi. J'ai fait du ménage. On avait le temps pendant le COVID de faire du ménage. Et je suis allé dans le sous-sol, dans la cave, et j'ai retrouvé ma première planche de snow qui m'avait été donnée. Et là, je sais, vous pouvez me juger, mais j'avais commencé, je ne sais pas pourquoi, une genre de collection de stickers. On s'en va avec le reste, là, vous allez me dire. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas. J'ai regardé la planche, puis je peux plus rider avec ça. C'est une vieille planche, même pas une vieille planche de qualité, tout ça. Et quand je l'ai regardée, j'ai fait comme, elle est significative. Et en plus, honnêtement, dans les dernières années, ça m'a pas mal sauvé la vie, ça. Pour vrai. Et je l'ai ressorti, j'ai dit, faut que je fasse quelque chose avec ça. J'ai sorti la planche, puis j'ai ressorti mon Ziploc avec des stickers. Fait que je me suis mis à coller des stickers sur la planche. Je l'ai mis au-dessus de mon lit. C'est beau. 100% moi. Mais le premier sticker que j'ai posé, c'est celui-là. Parce que quand j'avais été à Momentum, tout est possible, j'avais donné des stickers. Puis à l'époque, j'étais comme sur le bord de... Tu sais, tirer dans la foule à quelque part, je ne sais pas. Je l'ai gardé. Puis c'est le premier sticker que j'ai collé au centre de la planche, et tout est possible. Pour me rappeler qu'avec Dieu, tout est possible. Puis ça, ça va rester jusqu'à la fin des jours. Je la garde. C'est une belle décoration. Peu importe ce que vous en pensez, je m'en fous. Ça me représente bien. Puis mon tout est possible, je le regarde de temps en temps. Je l'oublie. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, des fois, tu sais, comme, ah, c'est tout nouveau, c'est tout beau, tout ça, puis le fun, tu finis par l'oublier. Mais de temps en temps, je lève les yeux, puis je regarde la planche, mais mon regard est toujours attiré par « Tout est possible ». Je termine avec cette citation. Faisons attention pour ne pas laisser passer dans nos vies ce que nous jugeons comme étant une imperfection à nos yeux, être en fait peut-être la perfection de Dieu. C'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans les 3 dernières années. Et aujourd'hui, je fais attention à ce qui se pointe dans ma vie, les situations, les offres, les portes qui s'ouvrent, les personnes qui se présentent dans ma vie, pour ne pas dire, ben, je ne comprends pas, ça ne fait pas de sens, non, j'accueille. Et je me pose toujours la question, et si c'était Dieu? Fais attention pour ne pas passer à côté. Et dans les derniers mois, je réalise que Dieu a fait des choses dans ma vie à travers des personnes que je ne m'attendais pas, des situations que je ne m'attendais pas, et à travers des gens qui ne sont même pas croyants. Mais si je vais être honnête, je me rends compte, j'aurais le goût de leur dire, « Sais-tu quoi? Dieu est en arrière de ce que tu as dit là. » Si dans ma vie, à cause de Dieu, je ne sais pas. Mais c'est ça. Parce que des fois, on limite Dieu. On limite Dieu à ce qu'on pense, que si on limite l'Église à ce qu'on pense, que si on limite notre destinée à ce qu'on pense. Que... Et si jamais le plan de Dieu était aussi imparfait que la généalogie de Jésus? Et si jamais on se retrouverait sur un toit et Jésus nous disait quelque chose qui ne fait pas de sens, mais qui dit, « Je suis désolé, ce n'est pas toi qui décides. Je te dis juste, go. Je ne te demande pas d'être prêt. » Je te demande de risquer. Je te demande de faire le pas. Je te demande d'aimer. Je te demande de pardonner. Je te demande d'avancer. Je te demande de changer. Et si c'était Dieu? Baissons nos têtes quelques instants. On va prier. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut être reconnaissant. Parce que peut-être là où on se trouve dans notre vie, peut-être qu'on se dit que notre vie est imparfaite, que notre destinée est imparfaite. On n'est pas là où on voudrait être. Il y a des déceptions, il y a des échecs, il y a des blessures. Mais merci Seigneur, parce qu'avec toi, il y a une page blanche au-dessus de tout ça. Toi, ce n'est pas nos blessures, ce n'est pas nos échecs, ce n'est pas nos manquements, ce n'est pas l'imperfection que tu vois, c'est la perfection de Jésus qui est la page blanche. Tu es le Dieu de la seconde chance. Tu es le Dieu de c'est quoi les chances. Tu es le Dieu de la page blanche. Ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, que tu puisses te révéler comme étant ce Dieu-là. Et que l'on puisse, Seigneur, pas te limiter, pas, Seigneur, juste être vraiment dans notre corps, dans notre petite boîte, mais d'être capable de voir que tu es bien au-delà de ça, que nos pensées, ce n'est pas tes pensées, puis tes pensées, ce n'est pas nos pensées. Qu'on te laisse être Dieu dans nos vies. Et dans la vie des autres. Et je te prie pour le futur, Seigneur, de Mosaïque. Merci parce que ça faisait partie de ton plan. On ne comprend pas tout maintenant. Mais dans quelques mois, quelques années, on va s'asseoir et on va réaliser pourquoi. On va comprendre pourquoi, Seigneur. Et c'est ce que je te prie. Que l'on puisse avoir l'ouverture de se poser la question, et si c'était toi, Seigneur, qui étais derrière ça? Dans le nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant. On va se lever et on termine avec un chant.